Bonjour à tous et merci d'être aussi nombreux. Je m'appelle Pierre Jaïs, donc je suis professeur de cardiologie à l'Université de Bordeaux. Je travaille au CHU d'Aulévêque et j'en profite pour remercier ces deux structures qui me font travailler depuis une trentaine d'années maintenant, et notamment le CHU de Bordeaux et Yann Bubien qui nous a dit que c'était peut-être une bonne idée de nous rapprocher de MOLA pour ce programme de partenariat. Avec Rick Walton, qui travaille comme moi à l'IHU Lyric, dont je vais vous parler un petit peu plus après. Rick est plus côté sciences fondamentales et moi côté patient et clinique. Nous sommes très heureux d'être là avec vous dans cette très belle salle. Et à titre personnel, j'ai une petite émotion parce que je pense qu'on a beaucoup de chance à Bordeaux d'avoir la librairie MOLA, qui est un endroit tout à fait remarquable et dans lequel j'ai toujours apprécié déambuler, aimant beaucoup lire. Alors, je vais donc vous parler des troubles du rythme cardiaque et de leur traitement en essayant d'être compréhensible, ce qui est assez compliqué chaque fois qu'on développe une expertise. Finalement, c'est toujours un peu un challenge d'arriver à faire passer des messages simples. Et donc, si ce n'est pas le cas, on aura l'occasion, je pense, de clarifier les choses après, à la fin de l'intervention. Alors, le cœur, donc, vous le savez, ça se situe au milieu du thorax. Et c'est ce qu'on voit sur cette radiographie du thorax. La masse sombre autour, ici, ce sont les poumons. Et puis, le cœur est là. Au milieu, c'est plus au milieu qu'à gauche, contrairement à ce qu'on croit souvent. Et un cœur, pour que ça fonctionne bien, il faut trois choses. Il faut un muscle cardiaque qui soit sain. Ça veut dire qu'il n'a pas fait d'infarctus, qu'il n'a pas eu de maladie et qu'il est donc capable de se contracter bien. Pour se contracter bien, il faut qu'il soit correctement nourri et alimenté en oxygène. Et ça, c'est le rôle des artères coronaires. Quand elles se bougent, ça donne un infarctus. Et enfin, il faut que les valves fonctionnent bien. Et les valves, ce sont ces structures assez fascinantes, qui sont un peu comme des voiles, qui sont capables, en fait, de permettre des flux unidirectionnels. C'est-à-dire que le sang a pour vocation d'aller dans un seul sens, typiquement, par exemple, du ventricule gauche vers l'aorte, et ensuite, il est distribué partout dans l'organisme. Mais il ne faut pas qu'il revienne de l'aorte vers le ventricule gauche. Et donc, il y a, pour la valve aortique, trois petites voiles qui sont des structures incroyablement complexes parce qu'elles laissent passer avec extrêmement peu de résistance le flux sanguin. Et ensuite, elles se referment avec un jeu de pression, c'est passif, elles permettent d'éviter ce reflux. Donc il faut ces trois choses pour que le cœur fonctionne bien. Et vous savez tous que donc, le cœur se contracte et qu'il va comme ça jouer le rôle de pompe. Ce que vous ne savez peut-être pas, c'est que avant chaque contraction, il y a un phénomène électrique qui doit se faire lui aussi dans les règles de l'art pour que la contraction puisse avoir lieu. Il y a toute une pathologie qui s'attache à ces troubles électriques et qui nous occupe depuis un peu plus de 30 ans maintenant. C'est quelque chose qui est assez peu connu et pourtant c'est d'une importance considérable parce que ça donne un certain nombre de pathologies qui peuvent être fort embêtantes, dont certaines conduisent à la mort subite d'ailleurs. Et on va en parler un petit peu plus en détail. Mais il y a beaucoup d'autres pathologies qui sont liées à ces problèmes électriques. Ce sont par exemple les syncopes pour lesquelles on va devoir implanter un stimulateur ou alors un défibrillateur, suivant les cas. Ce que vous n'avez peut-être pas réalisé non plus, c'est que le cœur, c'était un muscle pas comme les autres. C'est un nombre de contractions tout à fait considérable. En fait, c'est un muscle qui se repose jamais et qui n'a pas le droit de dire « stop, je suis fatigué ». Contrairement aux muscles périphériques, hein, quand on fait un effort, nos muscles atteignent une limite qui va les forcer à s'arrêter. Pour le cœur, ce n'est pas possible, ça. Et donc, il se repose entre deux contractions, à raison de 100 000 fois par jour, c'est beaucoup de travail. Et ce sont des mécanismes de production de l'énergie qui sont spécifiques au cœur, qui sont différents de nos muscles périphériques, qui permettent cette prouesse. Alors, Ce signal électrique, on va en parler un petit peu plus, parce que c'est quelque chose d'assez particulier. Il naît, vous voyez ici, cette structure verte dans l'oreillette droite. Vous voyez que le cœur est composé de quatre cavités, l'oreillette droite, le ventricule droit, l'oreillette gauche, le ventricule gauche. Le cœur droit récupère le sang veineux qui vient des jambes, des bras et de tous les organes et l'envoie dans les poumons pour qu'il soit oxygéné. Et une fois oxygéné, il est récupéré par le cœur gauche. Donc ici, l'oreillette gauche, le ventricule gauche. Et là, le sang oxygéné va partir partout dans l'organisme pour nourrir et oxygéner toutes nos cellules. Et donc, le chef d'orchestre de notre rythme est situé ici, dans l'oreillette droite. Et ensuite, ce rythme va se propager à l'ensemble des deux oreillettes assez rapidement. Ça prend quelques millisecondes, disons 60 millisecondes typiquement. Et ensuite, il va être freiné ici dans une structure entre oreillette et ventricule qui s'appelle le nœud auriculo-ventriculaire. Et cette structure, elle a pour but, en ralentissant la propagation, de permettre la bonne synchronisation, parce qu'il y a toujours un décalage entre l'activité électrique et la contraction. Et donc, il faut que les oreillettes se contractent au moment où les ventricules se relâchent pour que le sang puisse passer correctement des oreillettes au ventricule. Et donc, ensuite, une fois que le ralentissement est terminé, il faut au contraire activer très vite les ventricules pour avoir une contraction qui soit homogène. Si ça allait lentement, il y a certaines zones qui commenceraient à se contracter pendant d'autres sont encore relâchées. Et donc, on n'aurait pas d'efficacité de la pompe cardiaque. Donc là, il faut que ça aille très vite. Et il y a un réseau spécialisé ici, une espèce d'autoroute de l'information qui va dire aux cellules et même déclencher en fait le processus qui fait que les cellules cardiaques vont ensuite se contracter à peu près toutes en même temps. Ce réseau spécialisé s'appelle le réseau de Purkinje, peu importe pour les termes bien sûr exacts. Et une fois que c'est fait, les ventricules sont activés. Ça correspond tout ça à l'électrocardiogramme. Vous en avez tous sûrement passé un déjà. Chaque fois qu'on doit avoir une chirurgie significative, on a ça. Et donc, l'onde P ici, c'est l'activation des oreillettes. Et puis, cette grande flèche ici, c'est l'activation des ventricules. Et ensuite, tout ça se repose. Et c'est cette activité ici. Et peu importe, on ne va pas rentrer dans plus de détails que ça. Ça donne des choses assez fascinantes. Ah, elle ne joue pas cette vidéo. Bon, ah oui, aucune ne marche. Alors voilà, ça c'est vraiment dommage parce qu'on avait des choses magnifiques à vous montrer. Mais en fait, donc, la zone la plus précoce de l'activité électrique dans les oreillettes, c'est ici. Donc ça, c'est la veine cave supérieure et ça, c'est l'oreillette droite. Et c'est à la jonction des deux que tout démarre. Et ces cellules, d'ailleurs, elles ont des propriétés électriques assez fascinantes qui font qu'elles vont être capables à la fois de fixer un rythme par défaut. Donc c'est quand on est au repos, on est à 60 coups par minute, typiquement, moins de 100 coups par minute, en tout cas. Et à partir de là, tout va se propager dans les oreillettes et c'est assez fascinant à voir. Et donc je suis très frustré que les vidéos ne marchent pas. Et vous aussi. C'est comme ça. Alors, un petit mot pour les extrasystoles, parce que je suis sûr que c'est un terme que vous avez déjà entendu. Une extrasystole, c'est une activité électrique et donc une contraction qui est anormale dans le sens qu'elle vient d'un endroit qui ne devrait pas générer cette activité. Donc, ça ne devrait pas démarrer de cette zone-là. Et ça survient trop tôt dans le cycle cardiaque, et c'est ce qu'on voit ici. Là, vous avez un rythme cardiaque qui est normal, en tout cas sur ces trois battements-là que j'illumine. Mais ça fonctionne bien. Et ici, ce n'est pas le cas. Là, au milieu, là, on a un battement normal. Et ça, ce n'est pas un battement normal. Il survient trop tôt dans le cycle cardiaque. Et ça donne ce que vous avez peut-être déjà ressenti, parce que à peu près la moitié de la population en a ressenti au moins une fois dans sa vie, ça donne un battement bizarre, avec peut-être la sensation de blocage dans la poitrine, mais instantané, ou de palpitations. Et donc ça, en général, c'est pas grave. En tout cas, quand ça vient des oreillettes, c'est pas grave. Donc les oreillettes, encore une fois, sont les chambres supérieures du cœur, la droite et la gauche. Quand ça vient des ventricules, ça peut être un peu plus embêtant. Voilà, elles sont là, nos extrasystoles, peu importe. Ce que je vous disais, c'est que ça vient d'une zone où ça ne devrait pas éclore, parce que le chef d'orchestre, il est là. Et normalement, dans les oreillettes, il n'y a que lui qui déclenche une activité. Une extrasystole, ça va venir d'une autre zone, et ça peut venir à peu près de partout, et ça va activer les oreillettes trop tôt par rapport au cycle cardiaque. Alors, après, il y a un autre type d'extrasystole, celles qui viennent des ventricules, et vous voyez que ça donne un aspect très différent sur l'électrocardiogramme. Ça donne une onde beaucoup plus ample, qu'on voit beaucoup mieux. Les symptômes sont en fait les mêmes pour le patient. Il va ressentir la même chose, c'est-à-dire des ratés dans le rythme cardiaque ou des sensations de blocage. Ça peut être annonciateur d'une anomalie cardiaque sous-jacente. Ça peut être grave. Dans l'immense majorité des cas, ça ne l'est pas. Mais parfois, il y a quelques personnes chez lesquelles ça peut l'être. Et là, on est donc au niveau des ventricules. On a choisi de la représenter ici, mais peu importe, ça peut venir de n'importe où dans les ventricules, du droit, du gauche. Ici, en fait, c'est une zone d'où ça vient assez souvent. On appelle ça l'infundibulum du ventricule droit. C'est la partie haute, proche de l'artère pulmonaire, par où le sang va aller au poumon. Et donc ça, c'était relativement fréquent comme site. Et alors après, la suite de la présentation, c'est mon collègue Rick Walton, qui est donc plus spécialisé en sciences fondamentales. Et j'ai choisi qu'on parle à deux voix parce que le but d'un IHU, et je vous parlerai de l'IHU après, c'est justement d'amener la science fondamentale le plus près possible du patient. Et donc c'était important qu'on puisse avoir aussi quelqu'un qui vient des sciences fondamentales qui nous parle de sa vision du cœur.
Merci beaucoup, Pierre, et bonsoir à tous et toutes. Donc, vous avez entendu que le cœur est électrique, même sans pile. Alors, comment le cœur, du coup, produit l'électricité? Donc ça, c'est la question que je vais essayer de reprendre ici. Ben, du coup, on n'a pas de pile, mais vous connaissez l'expression « on est, qu'est-ce qu'on mange ?» Vous mettez le sel sur les frites, j'imagine. C'est ça, c'est un meilleur goût comme ça. Le sel, c'est quoi? C'est le chlorure de sodium. Et le sodium, il y a un peu de potassium dedans. Et vous buvez de lait peut-être? Je suis anglais, alors je bois beaucoup de lait, surtout avec l'été. Où il y a du coup le calcium. Et ces trois composants, le sodium, le potassium et le calcium, sont des composants très très importants pour le cœur à fonctionner. Le cœur et les cellules de tous les cœurs, les cellules ont les blocs de construction du cœur. Les cellules ont une capacité à transporter ces composants, ces ions de sodium, de calcium, potassium, au travers la membrane, à l'intérieur des cellules et à l'extérieur des cellules. Alors, les ions, ils ont une charge. Donc, ça veut dire que si on amène à l'intérieur d'une cellule le sodium qui est positif, naturellement, il amène la cellule beaucoup plus positive que son extérieur. Et ça donne une excitabilité aux cellules. Les cellules rentrent dans un état excité. Et ensuite, il y a, en combinant le transport de différents ions, le potassium et le calcium, jusqu'au moment que la cellule peut se reposer. Alors, ça, c'est juste une seule cellule. Mais c'est quoi le déclencheur? Comment les cellules savent qu'il faut déclencher à ce moment-là? Ben, en fait, ils écoutent ses voisins. Toutes les cellules sont organisées dans une sorte de réseau, comme vous voyez ici. Si, par exemple, on prend ces cellules qui est plein de milieu, on voit qu'il y a une interface avec ses voisins, ici et ici. Et ces interfaces, ils ont une petite communication, voie de communication où, quand le sodium rentre dans les cellules, il pourrait y avoir le petit fuit vers les voisins. Et donc, ce petit fruit, ça chatouille et ça commence à exciter un petit peu ses voisins. Et donc, ses voisins veulent s'enchaîner comme un effet domino d'excitation, entre une cellule à l'autre. Hop. Donc, toutes les cellules sont organisées dans une certaine manière. On voit qu'il y a une connexion à chaque bout de cette cellule, il y a une connexion avec ses voisins. Et certaines cellules, elles ont une petite connexion avec le rang de cellules à côté. Mais principalement, cet effet domino s'apparaît tout au long de la longueur de ces cellules qui produisent une propagation qui est vraiment déterminée par les orientations des cellules. Par contre, ces petits branchements vers le côté permettent également une petite propagation vers les rangs de cellules à côté, mais un peu plus lentement. Du coup, on a appris que les cellules, l'organisation des cellules, ou l'architecture de ces cellules, vont beaucoup déterminer comment l'électricité se propage au sein du cœur. Du coup, il faut les approches imagées de pouvoir visualiser cette architecture. De comment on peut observer l'organisation de toutes ces cellules au sein de tout l'organe. Aujourd'hui, en vivo chez les patients, on est capable de voir le cœur à peu près à ces niveaux. C'est un exemplaire en IRM, où on voit plus ou moins les structures, les composants du cœur. On voit les ventricules à gauche et droite et les oreillettes en haut. Mais en termes de l'organisation des cellules à l'intérieur, on aura beaucoup de mal à voir et à comprendre comment l'activité électrique va propager à l'intérieur. Par contre, aujourd'hui, au niveau de laboratoire, on est capable de voir les choses beaucoup plus fines. Ici, c'est une approche qu'on appelle un microscanner. C'est une approche par rayonics qui permet de voir les détails de tout le cœur, les microstructures et l'organisation de toutes les cellules. J'ai dit que c'est une approche en rayonics. Donc, si vous allez à l'hôpital parce que vous avez cassé la jambe, vous aurez un rayonics, une image en rayonics. Il vous donne une seule image de votre jambe. Et imaginez que vous demandez d'avoir une image de toutes les orientations, autour de 360 degrés, tout autour de la jambe. Si on prend 1000 images tout autour, on pourrait, avec ces images, reconstruire votre jambe et les fissures de votre os en trois dimensions. Et c'est ce qu'on fait ici. Une fois qu'on a reconstruit l'image, on peut obtenir ce genre d'image où on peut voir vraiment l'organisation, les détails de toutes les cellules et les fibres de muscles tout autour ou travers tout le cœur. Ça nous permet après de vraiment deviner, estimer le voie de propagation électrique après, pour faire la liaison entre la structure du cœur et les potentiels troubles de rythme. Ici, par exemple, quand on focalise sur un petit bout de ventricule, donc ça, c'est une visualisation trois-dimensionnelle d'un morceau de ventricule. Hop, je vois ici. On voit ces structures. Là, on a une vue à l'intérieur du cœur. C'est côté à l'intérieur du ventricule. Et on voit comment c'est complexe, comment il y a tellement de structures, microstructures à considérer. On voit principalement trois piliers de muscles ici. Et j'ai demandé, si on choisit les fibres de muscles dans chaque pilier, on va dire un pilier rouge, un pilier jaune, un pilier bleu, et on suit toutes les cellules, où est-ce qu'on va? Et c'est ce qu'on fait ici. On voit, nous avons coloré toutes les fibres, on voit jusqu'où ils vont. En gros, ça veut dire, voici la route, le chemin de propagation potentielle de l'électricité dans ces trois structures. Donc on peut voir la communication entre les différentes composantes de cœur. Ici, ça descend jusqu'ici, mais il y a une communication assez importante qui va vers la droite, qui est en fait rentrée dans le pilier bleu. Le deuxième pilier, il descend un petit peu plus bas, mais il a aussi une forte communication avec les piliers bleus. Et les piliers bleus, ben lui, il se communique tout en bas, jusqu'à vraiment en bas du cœur, du ventricule. Donc ils ont tous les trois les communications différentes. Et c'est une information essentielle pour essayer de prévoir comment l'électricité va se comporter au niveau du cœur. Du coup, là, c'est les vidéos qui ne fonctionnent pas. Mais ce que je vais vous le montrer ici, c'est une simulation d'une propagation anormale, une rythme sinusal qui va descendre par la petite fibre ici, sur le réseau de Purkinje, dont Pierre a parlé tout à l'heure, pour exciter tout le muscle. Mais après, il y a une structure particulière. Cette structure, c'est une structure de muscle entre le septum et les parois de von Schuh-Dwatt qui fait un pont entre les deux parties du cœur. Et ici, ce que je voulais montrer, c'est qu'on peut avoir un trouble de rythme qui inclut cette structure qui fait tourner en boucle les vagues électriques sans arrêt. Et donc, dans ce cas, cette structure maintient une arythmie, un trouble de rythme, et on n'a plus la capacité à contrôler par le rythme sinusal, le rythme normal du cœur. Par contre, si on intervient et arrête la conduction au niveau de cette structure, on va voir que cette arythmie va s'arrêter instantanément. Donc, il faut simplement savoir par où, quelle voie critique est essentielle pour l'arythmie. Si on le trouve, si on peut l'identifier et on peut arrêter la conduction à ce niveau-là, on peut sauver les patients. Merci beaucoup.
Et donc, ce que Rick vient d'expliquer, c'est qu'il y a des circuits d'arythmie, que ça ne se fait pas au hasard, que c'est en partie déterminé par l'orientation des fibres musculaires, en partie aussi par d'autres phénomènes, tels que la présence de cicatrices dans le cœur, quelle qu'en soit l'origine. Et ça, c'est le circuit d'arythmie le plus simple et le plus classique, celui qu'on a su traiter en premier chez des patients. Ça s'appelle un flotteur commun. C'est un circuit dans l'oreillette droite qui se caractérise par ces aspects de vagues ici qu'on voit. Ça fait des dents de scie. Et ça, c'est une des rares arythmies, la seule probablement, pour laquelle on sait, en regardant l'électrocardiogramme, dire à quoi ça correspond dans le cœur. Ça, c'est un mouvement circulaire qui est dans le sens antihoraire dans l'oreillette droite. Qui est représenté ici, vous le voyez, donc ça c'est l'oreillette droite, et on a comme ça ce circuit. Donc c'est un modèle assez remarquable pour nous sur le plan intellectuel, pour comprendre comment fonctionnent les arythmies, et on appelle ce mécanisme un circuit de réentrée, parce que l'activation va suivre toujours le même circuit. Donc ça revient sur ses pas, d'où ce terme de réentrée. C'est aussi quelque chose d'intéressant sur le plan intellectuel, parce que pour arrêter un circuit de réentrée, il faut pouvoir créer un obstacle à la propagation électrique qui passe au travers d'une zone critique, comme le disait Eric. Et cette zone critique, elle est parfois déterminée anatomiquement, et là, c'est le cas. C'est-à-dire qu'on va faire un barrage entre et ça non plus, ça marche pas, mon Dieu. On va faire un barrage entre ici, ce qu'on appelle l'anneau tricuspide, c'est la structure fibreuse qui porte la valve tricuspide, et la veine cave inférieure qui est ici, qui est aussi un orifice anatomique où, par définition, il n'y a que du sang, là, il n'y a pas de cellules musculaires, donc pas d'activité électrique. Et donc, on prend un cathéter, on envoie l'extrémité ici, avec son électrode mécanique métallique, pardon, et donc on va venir brûler le tissu en faisant des petites lésions qui font à peu près 5 mm qu'on espère jointives depuis l'anneau tricuspide jusqu'à la veine cave inférieure pour empêcher cette propagation de l'influx électrique et donc empêcher le circuit qui est nécessaire à l'arythmie. Et ça, c'est intéressant parce que non seulement ça va arrêter l'arythmie, mais en plus, ça va l'empêcher de revenir. elle ne peut plus revenir parce qu'on a créé un barrage à la propagation électrique. Si tant est que le barrage soit permanent dans le temps, c'est l'ablation du flotteur. Absolument. Ça marche souvent. Ça marche mieux que les traitements antiarythmiques, qui sont relativement décevants, très compliqués à mettre au point, tellement que l'industrie pharmaceutique a à peu près plus de molécules en cours de développement. Vous avez peut-être entendu parler aussi des problèmes de régulation, d'accès au marché. Ça coûte des sommes folles. Ça se chiffre en millions de dollars. Et ça marche plutôt moins bien que les interventions, d'où le succès de notre métier. Les chocs électriques dont vous avez peut-être entendu parler, ça fonctionne aussi et ça arrête les fibrillations ou les flotteurs, mais ça ne les empêche pas de revenir. C'est même pire que ça, si j'ose dire. C'est-à-dire qu'on est certain que ça va revenir. On ne sait pas quand, mais ça va revenir. Et donc, l'ablation, effectivement. Alors, ablation, ça ne veut pas dire qu'on enlève quelque chose. Hein. C'est une traduction un peu trop directe de l'anglais. La seule chose qu'on enlève, c'est l'arythmie, c'est le problème. Ce n'est pas une partie du cœur. Hein. On fait juste un blocage électrique ou la destruction d'une zone responsable de ça. Et là, j'avais des vidéos qui étaient censées vous montrer ce qu'était une fibrillation atriale, puisqu'on va en parler un petit peu plus. Une fibrillation atriale, il faut l'imaginer comme une activité très chaotique. Le flotteur, c'est à peu près 200 coups par minute dans l'oreillette avec un rythme très organisé. Ça ne va pas à 200 coups dans tout le cœur, parce que sinon, on ne serait pas bien. Et on a ce nœud entre oreillette et ventricule qui filtre de sorte que assez souvent, c'est 75 coups par minute, voire 150 quand on est en flotteur. Mais certainement pas 200 ou 300. La fibrillation, c'est une activité très chaotique des oreillettes qui semble très désorganisée, et qui l'est, beaucoup plus difficile à comprendre. On ne la comprend toujours pas. Ça fait 100 ans qu'on cherche et on ne comprend à peu près rien à la fibrillation sur les mécanismes qui lui permettent d'évoluer. Et c'est 400 à 600 coups par minute dans les oreillettes. Donc c'est extrêmement rapide. Il n'y a plus d'efficacité de la contraction du muscle dans l'oreillette. Et c'est pour ça que le sang peut se mettre à stagner, former des caillots qui ensuite peuvent partir au cerveau, donner des accidents cérébraux. Donc c'est une arythmie qui est embêtante, qui a une foule de désavantages ou de risques de complications. Par exemple, ça augmente le risque de démence aussi. Quand on est en fibrillation permanente, le cerveau diminue de volume à l'imagerie. Il y a des complications éventuellement rénales également. Ça donne parfois de l'insuffisance cardiaque. Bref, il y a une foule de complications possibles, mais ce n'est pas une arythmie qui vous emporte dans l'instant. On fait de la fibrillation sur des décennies, typiquement. Et chez certaines personnes, et pas chez tout le monde, et on ne comprend pas pourquoi, il va y avoir des complications ou pas. Alors, en fait, notre métier a évolué au fil des années. Et c'est assez intéressant de raconter cette histoire, parce que je la crois assez édifiante des évolutions scientifiques et médicales. Avant 77, l'électrophysiologie, qui est mon métier, c'est-à-dire la compréhension et le traitement des arythmies cardiaques, c'était purement diagnostique. Ça veut dire que on passait beaucoup de temps à lire des électrocardiogrammes et des holters, qui sont les enregistrements longue durée de l'activité électrique du cœur. Et on n'avait à peu près pas de traitement. On avait des antiarythmiques qui marchent plus ou moins bien. Quand on mettait des cathéters dans le cœur, c'était purement pour essayer de comprendre des mécanismes, pour faire des mesures, mais ça n'avait pas d'aspect thérapeutique. On ne faisait pas de traitement avec ces cathéters. Les chirurgiens ont été les premiers à faire des traitements quand ils opéraient. Et à une époque, on a opéré uniquement dans le but de traiter les arythmies cardiaques. Et puis, progressivement, cette activité est passé d'une activité chirurgicale à une activité médicale, et je vais vous expliquer comment. Ce qui est très intéressant, c'est que, en tout cas, moi, je suis très sensible à ça, parce que je crois que c'est vraiment important, c'est qu'en 1979, aux États-Unis, Melvin Shaiman fait la première ablation d'une structure dans le cœur complètement par hasard. C'est-à-dire qu'il a un cathéter dans le cœur qui est placé sur ce nœud entre oreillette et ventricule qui assure la conduction entre les deux structures et qui filtre aussi les influx des oreillettes vers les ventricules. Et le patient passe en arythmie, il faut lui faire un choc électrique. Et donc il fait un choc électrique et il se trouve que le cathéter qui est placé sur cette structure va faire antenne, il va capter l'énergie du choc électrique, ce qui n'est absolument pas prévu ou voulu. Et la conséquence, c'est que le nœud est fichu. Et donc, il n'y a plus de connexion entre oreillette et ventricule. Alors, pour le patient, ce n'était pas très bien, parce qu'il a fallu lui mettre un pacemaker. Parce qu'à ce moment-là, quand les oreillettes ne sont plus connectées au ventricule, le rythme des ventricules est beaucoup trop lent. Et donc, il faut passer de 20 coups par minute à 60. Et pour ça, on le fait avec un pacemaker. Mais ce qui était intéressant, c'est qu'ils ont compris que ça avait potentiellement un intérêt thérapeutique. Et que si on était capable de faire ça à loisir, de manière voulue, on pouvait détruire les zones du cœur qui étaient responsables d'arythmie. Et ça, c'était le premier concept et rêve de faire de l'électrophysiologie une science non plus purement diagnostique, mais thérapeutique. Et Melvin Shaiman a essayé de reproduire ça. Il n'y est pas parvenu, parce qu'il y a quelques astuces techniques. Et en fait, en 82, Thomas Lavergne à Paris a réussi à reproduire ça de manière intentionnelle, à nouveau sur cette structure vulnérable, là, entre oreillette et ventricule. Et ça a été le début de notre ère thérapeutique qui a connu une expansion absolument considérable et donc qui a connu aussi des évolutions au fur et à mesure des améliorations des cathéters, des outils sur lesquels on branche les cathéters et qui nous permettent de reconstruire en trois dimensions l'intérieur du cœur, de voir la propagation de l'activité électrique et d'utiliser soit la cryothérapie, soit des courants de radiofréquence. Les deux viennent brûler, en fait, les zones qui sont responsables des arythmies et dont on veut débarrasser le patient. Donc, tout ça s'est développé dans les années 80. Et puis, à peu près en 93, on fait ce qu'on appelle une ablation de fibrillation atriale, et ça a été la première mondiale a été faite à Bordeaux. Et c'est ce qui nous a... Ça a été le début... Service de Jean-François Varin et de Michel Essaguer était déjà connu pour d'autres premières sur des arythmies un peu plus simples. Mais ce qui a vraiment braqué les projecteurs un peu au niveau mondial sur Bordeaux, ça a été le début de l'ablation de la fibrillation atriale, qui est une arythmie casse-pied, comme je vous l'ai dit, qui expose à de nombreuses complications et surtout qui est très répandue dans l'espèce humaine. Puisqu'on est à peu près à 1 ou 2% de la population générale qui en souffre. Donc ça fait des millions de gens de par le monde. Alors ça, c'est la première publication qu'on fait en 1994. Et là, on a une chance folle, parce que cette approche qui consiste à créer ces trois lésions sous forme de lignes dans l'oreillette droite, ben, elle est nulle. Mais la chance qu'on a, c'est qu'elle a marché chez le premier patient. Et ça, c'est vraiment le coup de pouce du destin, parce que ça vous donne la force de continuer, la capacité à essayer d'aller plus loin, à comprendre plus et à développer ça. C'était un coup de chance et ça ne s'est pas du tout reproduit. On a essayé, bien sûr, de le refaire chez d'autres patients et ça ne marchait pas du tout. Et après, il faut attendre 1995 pour un autre coup de pouce du destin dans notre équipe de rythmologie, donc Michel Eissaguer, Mélèze Ossigny et moi-même. Et ce second coup de pouce du destin, c'est... Alors, c'est pas que de la chance, parce que ça faisait quand même 2 ans qu'on cherchait. Hein, et on cherchait quoi ? On cherchait quelque chose qui n'avait pas été investigué avant, parce qu'on s'est dit, et c'était le mérite de Michel Eissaguer, On s'est dit que ça servait à rien de chercher là où les autres avaient cherché. Et donc, au lieu de chercher à comprendre pourquoi les fibrillations continuaient, on a cherché à comprendre pourquoi elles démarraient. Et c'est pas évident parce que ça démarre pas à loisir. On sait pas les faire démarrer de manière volontaire quand on explore un patient avec des cathéters. Et donc, il faut sélectionner des patients pour lesquels il y a beaucoup de démarrage et attendre. Donc, c'est pas agréable pour le patient, c'est pas agréable pour nous. Ça fait des procédures longues, mais ça nous a permis un jour et pour la première fois, en tout cas pour le premier patient, c'était complètement par hasard, d'avoir un cathéter au bon endroit et d'avoir la chance d'avoir un déclenchement de fibrillation qui vienne de l'endroit où était le cathéter. Donc, voyez, il faut cumuler un certain nombre de conditions qui expliquent qu'on ait mis 2 ans à trouver quelque chose d'intéressant. Et quelque chose d'intéressant, c'est ça, c'est-à-dire que donc ça, c'est une radiographie qui est faite avec une très vieille installation à l'époque déjà, et donc c'est en 95. On a un cathéter, je sais pas, vous le voyez peut-être pas très bien, mais il sort un peu de la silhouette cardiaque. Hein, et il sort un peu de la silhouette cardiaque parce qu'il est dans une veine pulmonaire. Et là, on a quelque chose qui pour nous est extraordinaire. Alors ça va pas vous paraître très extraordinaire, mais cette activité là, elle précède de beaucoup l'activité de l'oreillette sur l'électrocardiogramme. Elle a des caractéristiques électriques qui sont tout à fait remarquables pour nous. Et on comprend là que on vient de saisir l'endroit d'où venait le déclenchement de la fibrillation. Et ça, ça a complètement révolutionné notre métier parce que il s'est avéré que, en fait, et donc ce papier de 97, c'est le premier où il y a la moitié des patients chez lesquels la fibrillation démarre d'une veine pulmonaire. Ça devient un peu technique, mais les veines pulmonaires sont donc ces conduits qui ramènent le sang oxygéné des poumons vers l'oreillette gauche. Et il se trouve que pendant la vie fœtale, il y a toujours, et c'est normal chez l'être humain, il y a toujours des petites bandelettes de muscles qui rentrent dans la veine pulmonaire. C'est assez souvent en fait le cas parce que je pense que ça fait des jonctions entre les structures qui sont plus solides. Et donc il y a un peu de muscles qui rentrent dans la paroi des veines pulmonaires. Et il se trouve que ces cellules qui sont dans la paroi des veines pulmonaires, elles ont des propriétés électriques différentes. Et ça, on ne sait absolument pas pourquoi. Ce sont des nids à déclenchement de fibrillation. Et ça, bien sûr, c'est quelque chose de hautement intéressant qui a été ensuite confirmé par cette autre publication où vous voyez que l'immense majorité... Alors, on ne voit pas très bien, mais on a schématisé là les 4 veines pulmonaires et l'immense majorité des déclenchements de fibrillation, ça vient de là. Et il y en a quelques-uns qui viennent de l'oreille droite. Et je vous disais que notre premier patient, on avait une chance folle que ça fonctionne. On est probablement passé par hasard sur la zone qui déclenchait ces fibrillations. Et c'est comme ça que ça a fonctionné. Mais vous voyez, la chance extraordinaire, parce que c'est les 3 points qu'on a là dans l'oreille droite, ils sont incroyablement minoritaires par rapport aux 80 qu'on a sur les veines pulmonaires. Donc parfois, il faut avoir de la chance. Et alors, ça nous a permis ensuite de créer une stratégie d'intervention. On a commencé par aller détruire la zone spécifique dans la veine pulmonaire qui était responsable du déclenchement de fibrillation que l'on observait pendant l'intervention. Et ça ne marche pas bien parce que ça se met à démarrer d'à côté ou d'une autre veine pulmonaire. Et donc, on avait beaucoup de réinterventions à faire. Et progressivement, de fil en aiguille, on a mis au point cette intervention dont le but est de venir faire un obstacle à la propagation de l'activité électrique tout autour de la veine pulmonaire. On appelle ça isoler la veine pulmonaire. On l'isole pas physiquement, mais électriquement, pour que si ça se met à dérailler dans la veine pulmonaire, ça ne contamine pas les oreillettes et qu'il n'y ait plus de fibrillation. Et ça fonctionne bien, au point que c'est maintenant fait à peu près 700 ou 800 000 fois par an dans le monde, et c'est un chiffre qui est en augmentation constante depuis 20 ans maintenant. Et c'est sur la base de ces travaux qui ont quand même révolutionné notre métier qu'on a pu construire notre institut de recherche dont je vais vous parler un tout petit peu plus tard. Alors, je vous ai parlé de cathéter. Ça, c'est l'extrémité distale, celle qui va le plus loin et qui va être dans le cœur du patient. Ce sont des outils qui font à peu près 75 cm de long. Il y a une partie, donc on les insère par la veine fémorale ou par l'artère fémorale. Il y a une partie qui reste à l'extérieur qu'on manipule pour pouvoir l'orienter dans le cœur. Donc on chemine par la veine cave inférieure jusqu'à rentrer dans le cœur. Ça, c'est assez simple à faire. On peut aller dans l'oreillette gauche. Il faut traverser la cloison qu'il y a entre les deux oreillettes. Ça aussi, c'est relativement simple à faire. Et puis, il y a deux types d'outils de cathéter. Il y a ceux qu'on utilise pour faire des enregistrements, voire pour stimuler le cœur. On les appelle diagnostiques. Et puis ça, c'est un cathéter qui est capable de faire un traitement. Vous voyez qu'ici, l'électrode la plus distale, celle qui est au bout du cathéter, elle est plus large parce qu'elle va délivrer le courant de radiofréquence et donc traiter la zone que l'on veut traiter. Il y en a beaucoup d'autres et je ne vous les montrerai pas tous. Ça, c'était aussi une vidéo qui était censée vous montrer comment on traversait la cloison entre les oreillettes. Ça, c'est la silhouette cardiaque, vous l'avez reconnue. Ici se situe l'oreillette droite et ici l'oreillette gauche. Et donc, on va passer de l'une à l'autre avec cette aiguille qui est un peu impressionnante parce qu'elle est très longue, mais elle est très fine, de sorte qu'elle ne crée pas de gros dégâts quand elle traverse la cloison entre les deux oreillettes. Et ça, c'était aussi censé vous montrer une injection des veines pulmonaires et une intervention. Alors, un des inconvénients qu'il y a à ces énergies thermiques, que ce soit la cryothérapie ou la radiofréquence, c'est que ça crée des brûlures. Et les brûlures, on crée une brûlure autour de l'électrode et l'augmentation de température qui induit la mort cellulaire, va se propager dans le tissu. Et on ne contrôle pas ou pas bien la propagation et donc la profondeur de la lésion. De sorte que on a assez souvent... Donc ça, c'est la lésion qu'on a fait sur le cœur. Vous voyez, cette partie blanche-là, elle est détruite. En périphérie, d'ailleurs, on a une couronne hémorragique qui nous embête bien parce que c'est une zone où l'activité électrique ne marche plus au moment de l'intervention, mais elle va récupérer. Et donc, c'est parfois un souci parce que ça veut dire qu'on peut avoir des effets aigus favorables, mais pas au long terme, parce que cette zone va récupérer. Et on ne sait pas faire la différence entre les deux, c'est-à-dire la zone qui est définitivement hors-jeu et celle qui ne l'est que temporairement, qui est hémorragique. Mais ce qui est intéressant ici, c'est qu'on a en symétrique... Alors là, on les a décollés, mais le poumon était contre le cœur. Et donc, la lésion que l'on a fait, ça, c'est de la radiofréquence, la brûlure que l'on a fait du tissu cardiaque s'est propagée au niveau du poumon. Alors, le poumon, il supporte ça assez bien. Il a cette capacité à se régénérer très bien. Mais il y a d'autres structures qui supportent ça beaucoup moins bien. Par exemple, le nerf phrénique. Si on vient léser un nerf phrénique, ça peut être irréversible. Ça veut dire qu'il y a un diaphragme, c'est le droit en général, qui ne va plus fonctionner. Il y a des gens pour lesquels c'est une catastrophe. On a aussi l'œsophage, qui est juste derrière l'oreillette gauche et qui est parfois impliqué dans notre stratégie d'ablation des fibrillations atriales, parce que l'œsophage est juste au contact. Hein, on parle de quelques millimètres de distance. Et il n'est pas impossible que la lésion thermique que l'on fait pour procéder à l'isolation des veines pulmonaires, aille jusqu'à l'œsophage. Et on a très rarement, mais quand ça arrive, c'est une catastrophe, des communications entre l'œsophage et l'oreillette gauche. Et vous imaginez bien que de la salive, des bactéries, des aliments, de l'air qui passent dans le cœur et qui ensuite vont au cerveau, c'est épouvantable. Et donc ça, ça fait partie des choses qui, encore une fois, sont extrêmement rares, mais qui peuvent être dramatiques qui nous ont conduits à chercher d'autres solutions pour traiter les zones malades que les brûlures. Parce qu'encore une fois, on ne contrôle pas bien ou pas du tout la propagation de l'élévation de température dans le tissu et elle n'a pas de raison de s'arrêter au cœur. Le cœur, la paroi cardiaque, quand elle se termine, elle est au contact avec d'autres structures. Et l'augmentation de température peut se propager à ces structures. Et donc, c'est là qu'on a travaillé beaucoup avec une start-up américaine sur une autre énergie qui s'appelle l'électroporation et qui est tout à fait intéressante. L'électroporation, ce n'est pas une brûlure. C'est un courant de haut voltage, c'est 2000 volts, sur des durées extrêmement courtes. Et il n'y a pas d'élévation de température qui soit significative. Ça peut être 1 degré, 2 degrés, mais ça, ça ne brûle pas. C'est comme avoir de la fièvre. Et en revanche, ça va créer des trous dans la membrane des cellules. Et ces trous vont en fait conduire à la mort cellulaire. Donc on a là le moyen de détruire des cellules sans les brûler et sans qu'il y ait de propagation aux autres structures. Alors, on pourrait imaginer que ces autres structures aient la même sensibilité que le muscle cardiaque qu'on veut détruire, et qu'en fait, il n'y ait pas d'avantage. Il se trouve, et on a beaucoup de chance, que ce n'est pas le cas, et que... Donc la vidéo ne marche pas, bien sûr, mais on a la chance que les cellules musculaires cardiaques soient extrêmement sensibles à cette énergie. Et donc, par exemple, je vais vous donner une idée de valeur arbitraire. Disons qu'il faut atteindre 400 pour détruire des cellules cardiaques et peut-être 900 pour le nerf phrénique et 1000 pour l'œsophage. Et donc, on sait que si on a bien réglé notre énergie, on va se mettre à 400 ou à 500 et on ne va tuer que des cellules musculaires cardiaques. Le nerf phrénique ne sera pas impacté, l'œsophage ne sera pas impacté, même s'ils sont dans cette zone violette qui est le champ électrique à l'intérieur duquel toutes les cellules musculaires cardiaques vont mourir. Et ça, c'est un avantage extraordinaire. On appelle ça la spécificité tissulaire. Donc on a pour la première fois une énergie qui va faire la différence, en quelque sorte, entre les cellules qu'il faut détruire et celles qu'il faut préserver. C'est un avantage, à mes yeux, absolument remarquable. Et donc, c'est quelque chose qui est visible ici, avec des images qui sont assez effrayantes. J'en suis désolé, mais je pensais que c'était quand même intéressant de vous les montrer. Ça, c'est un œsophage et une veine cave inférieure qui ont été soumis à une lésion d'électroporation qui est de nature à détruire les cellules cardiaques. Vous voyez qu'il n'y a absolument aucune lésion. Ça, c'est la même chose avec la radiofréquence. Et on a ces choses assez effrayantes. Donc, bien sûr, on est très heureux de ne plus avoir ce risque de fistule, de communication entre les deux structures, ce risque de lésion de l'œsophage ou du nerf phrénique, d'ailleurs. Et c'est quelque chose, et c'est très satisfaisant pour nous à l'Institut de recherche, c'est que on a commencé à travailler avec cette start-up très en amont. Ça fait 8 ans qu'on travaille avec eux, ou 9 ans. Et on a pu les accompagner sur tout le cycle de développement jusqu'à traiter des patients. Et c'est ce que vous voyez ici. Et donc, vous voyez que quand on fait... Donc, cette structure ici, c'est l'oreillette gauche vue à l'IRM. Et ici, en long, c'est l'œsophage. Vous voyez à quel point ils sont proches. Hein. L'IRM a cette capacité d'identifier les zones qui ont été lésées par le processus de destruction de l'ablation. C'est ce qu'on voit sur la paroi de l'oreillette qui apparaît plus blanche. On la voit bien en partie supérieure de l'oreillette. Je ne sais pas si vous la voyez. Et ce qui est intéressant ici, c'est qu'on la voit aussi très bien. Ah, ça y est, elle est revenue. On la voit très bien ici sur la face antérieure de l'œsophage. Ça veut dire que l'œsophage a été lésé. Et ça, c'est une ablation par cryothérapie. À peu près la moitié des gens pour lesquels on fait une ablation par cryothérapie ont cet aspect à l'IRM. Ça ne veut pas dire qu'ils vont avoir de complications, hein, mais ça veut dire que la lésion est allée jusqu'à l'œsophage. Pareil pour la radiofréquence. On voit très bien là, le blanc de la radiofréquence dans l'œsophage. Et ici, sur la paroi postérieure de l'oreille gauche, vous voyez aussi à quel point c'est proche. Il y en a ici aussi. C'est une autre veine pulmonaire qui a été traitée. Et quand on traite les gens avec de l'électroporation, il n'y a jamais de lésion de l'œsophage. Donc on a pu le montrer à la fois sur du tissu, chez des animaux et chez des patients. La dernière chose dont je veux vous parler, ce sont les arythmies ventriculaires. Je vois que je suis très long. On a aussi beaucoup progressé là-dessus, à bien des égards. Et il y a une chose que je veux vous montrer. Alors, bien sûr, il n'y aura pas de vidéo. Mais c'est le fait qu'on peut, en faisant un traitement spécial d'une IRM ou d'un scanner, avant l'intervention, mettre à profit cette imagerie du cœur pour identifier les zones par lesquelles l'arythmie va passer. Et ça, c'est super intéressant parce que ça veut dire que, au lieu de passer 2, 3, 4 heures à comprendre ce qu'on appelle le substrat, c'est-à-dire les zones malades du cœur par où l'arythmie va se propager, on a tout ça qui est disponible avant même l'intervention à partir de l'imagerie cardiaque. Et ça, ça a été un gros progrès aussi. Et ensuite, on peut mettre ça dans notre système de localisation du cathéter. Je vous ai dit que les cathéters avaient beaucoup progressé. Ils sont depuis, disons, une quinzaine d'années, ils sont équipés de petits sensors qui captent un champ magnétique émis par trois sources dans le dos du patient et qui nous permettent de localiser dans l'espace l'extrémité de l'outil avec lequel on travaille. Et ça, c'est super intéressant parce qu'on sait où on est de manière beaucoup plus précise que les images de radio que je vous ai montrées. Et donc, ces cathéters, on peut les voir aussi par rapport à l'imagerie qu'on reconstruit en trois dimensions et qu'on importe dans le système de navigation au moment de l'intervention. Et donc là, on est dans une situation où on peut se passer complètement de la phase diagnostique qui dure des heures et amener directement le cathéter sur les zones qu'on a identifiées à l'imagerie. On gagne un temps fou et on fait donc le traitement de ces arythmies ventriculaires beaucoup plus rapidement. C'est en moyenne 2 heures au lieu de 5 ou 6 heures précédemment. Donc c'est un gros progrès et en plus, il est probable que ça fonctionne mieux. Et donc vous voyez, on peut faire un plan stratégique avant même d'aller à l'intervention. On peut l'expliquer aux patients, c'est intéressant aussi cet aspect-là. Alors, quelques mots sur cet institut de recherche, l'IHU LIRIC. Il y a eu en France un gros effort en 2010 dans le cadre des investissements d'avenir pour créer des pôles d'excellence qui soient à la frontière et qui réunissent les sciences fondamentales et les sciences cliniques et donc qui rapprochent du patient la science fondamentale. Le but, c'est d'avoir ce qu'on appelle une translation facilitée entre les deux mondes. Et c'est incroyable à quel point tout dans nos métiers est organisé en silos et à quel point c'est difficile que les gens se parlent et qu'ils puissent comme ça nous faire progresser et amener à des soins de meilleure qualité ou à de la prévention, etc. Et ces instituts, ils ont justement pour but de créer un pont entre les deux mondes. Et c'est tout à fait intéressant, performant et excitant. Donc, pour un institut de recherche, vous ne serez pas surpris de voir qu'on a un objectif de recherche, y compris fondamental, mais aussi clinique. De l'innovation, et c'est une partie importante de notre institut, il y en a eu 6 qui ont été créés lors de la première vague en 2010. Et Bordeaux a été un des 6, et on en est très fiers et très reconnaissants. Des objectifs d'amélioration des soins, et puis des objectifs de formation, parce que ça ne sert à rien de faire de belles choses si on ne les partage pas avec les autres et s'ils ne peuvent pas les faire à leur tour. Donc voilà, on est organisé avec différents pôles, peu importe. Ce qui est intéressant, c'est que c'est à peu près 170 personnes maintenant. Vous voyez, 23 nationalités différentes qui travaillent sur le campus de Xavier Nozan à l'IHU LIRIC. Donc ça remplit cette fonction d'aimant pour des gens de qualité un peu partout dans le monde qui sont venus avec des compétences. Donc, par exemple, il y en a qui font des modèles informatiques de fonctionnement cardiaque. Il y en a d'autres comme Rick Walton qui font qui sont capables de rentrer dans les détails de la structure tissulaire et d'en comprendre le fonctionnement au niveau du cœur. Il y en a d'autres qui sont spécialistes dans l'IRM, il y en a d'autres qui sont spécialistes en biologie, etc., etc. Il y a même des gens dont le métier premier, ce sont les mathématiques, et on a besoin de beaucoup de mathématiques pour mieux comprendre ces arythmies. Et on a aussi un système de chaire d'excellence qui fonctionne très bien. Donc, vous voyez ici 3 professeurs qui sont très connus dans notre métier. Mathias Stuber est en Suisse. C'est le pape de l'IRM cardiaque et on a construit avec lui développé un pan d'activité qui marche très très bien, qui nous a permis de créer de nouvelles séquences IRM qui sont tout à fait importantes et reconnues. Stan Nattel au Canada, c'est un des meilleurs spécialistes de la fibrillation atriale dont on a parlé, et Peng Chen aux États-Unis de la fibrillation ventriculaire. Donc vous voyez ici, on a réussi. C'est une diapositive qui montre quelques projets européens qui ont été financés en 2021. C'est un peu plus de 5 millions d'euros directement pour l'IHU, mais le périmètre global, parce que ce sont des efforts multicentriques, il y a beaucoup d'autres centres français ou européens qui sont associés à ça. Et donc le périmètre global, c'est plus de 20 millions d'euros. Donc ça fonctionne bien, cet institut, dans sa capacité à écrire et proposer des projets innovants et ambitieux qui seront financés par l'Europe ou par l'Agence nationale de la recherche en France. Et on est très fiers d'être bien classés quand on tape les mots-clés arythmie cardiaque dans les moteurs de recherche. Vous voyez qu'on est, alors on était en 2020 au 9e rang, on est maintenant au 7e rang. On est les premiers en Europe sur ce thème-là. Et donc c'est là aussi quelque chose qui fonctionne bien dans notre institut de recherche. Et je vais m'arrêter là. Merci beaucoup.